La matinale de 19h.
Et bah, c'est une émission qui parle de société,
politique,
culture alternative.
On va aussi parler de sport, toujours dans la rue.
Et l'actualité en règle générale.
On va peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne.
Voilà, il y aura des invités.
Des sociologues, des invités chercheurs.
Les invités ne diront que des choses intelligentes.
Ça va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais...
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Nous ne participerons plus à aucune manifestation publique ou événement médiatique où seraient débattus, commentés ou jugés des sujets d'intérêt commun, sociétaux, politiques, économiques, scientifiques ou stratégiques, et qui ne compteraient aucune femme parmi un nombre important d'intervenants. Et bien ça, c'est un texte des acteurs du numérique qui se mobilisent pour une plus grande présence des femmes dans les instances de décision. L'appel s'appelle « Jamais sans elles », on en parle en début d'émission. Les femmes dans le numérique, cela ne se résume pas à Sandrine, la voix du GPS, comme on pourrait le penser à l'écoute des frères Brother. Les femmes, elles sont aussi entrepreneuses, codeuses, développeuses, sauf qu'on ne les voit pas. Alors à défaut de les voir, vous allez les entendre ce soir dans la matinale, puisqu'en studio, nous accueillons ce soir trois invités. Première, Tatiana Salomon, une des fondatrices de Girl Power 3.0, un club d'entrepreneuses, si je comprends bien. Bonsoir.
Bonsoir.
À votre gauche, il y a Natacha Kester-Séméon, qui est également fondatrice de ce club, et vous êtes directrice de l'agence digitale You Are Here.
Bonsoir.
Bonsoir. Et... ensuite, un homme quand même en studio, Guy Mamoumani, on va vous expliquer pourquoi, président de Syntec Numérique, un des syndicats de l'industrie du numérique. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors tous les trois, vous êtes ici parce qu'il y a un nouveau mot-clé qui se balade sur les réseaux sociaux. C'est hashtag jamais sans elle et c'est le nom du coup de l'appel du club des gentlemen, entre autres, pour une plus grande représentation des femmes dans le numérique, dans les panels, les tables rondes, les cercles de décision en général. Pourquoi lancer cette mobilisation aujourd'hui, en début d'année 2016, il y a urgence ? Tatiana par exemple ?
Je pense que c'est un moment où ça s'est cristallisé, puisqu'il y avait une prise de conscience successive depuis quelques années, quelques mois. Et on a agi, nous, avec notre club depuis une dizaine d'années. Puis en même temps, il y a la démarche de son côté de Guy Mamouani avec Syntec Numérique. Et à un moment, voilà, ça a pris. Et puis on a voulu, à travers ce club également, mener une action réelle. Et immédiate.
Une action réelle, c'est-à-dire ?
Eh bien, ce n'est pas un appel d'une façon abstraite, c'est applicable immédiatement. C'est-à-dire que les signataires, dès la signature de l'appel, ont appliqué lors des invitations, et pour certains, comme Guy, refusé des invitations dans le cas où des femmes avaient annulé leur présence.
Du coup, Guy, par exemple, ces invitations refusées,
Il faut d'abord rappeler que l'industrie du numérique, c'est une des plus belles industries françaises. Il y a 412 000 salariés. Qu'on fait 30 000 offres d'emploi chaque année, qu'on a créé 12 000 emplois nets, que ce sont à 93,7% des CDI, et qu'on a du mal à attirer les talents, et en particulier les jeunes filles. Il faut rappeler qu'il n'y a que 13% de filles dans les écoles d'ingénieurs. Donc pour nous, au Syntec Numérique, le combat des femmes du numérique, ça est toujours quelque chose, une évidence, et donc on a tout fait pour essayer de développer cela. Et ce qui s'est produit dernièrement, c'est que justement, on a vu un certain nombre de tables rondes où on ne voyait pas de modèle féminin. Et on a trouvé que c'était regrettable. Et donc, j'ai décidé de dire que je n'irai plus dans une table ronde où il n'y a pas de présence féminine. Et puis du coup, tout ça a été enclenché, a été rejoint par de nombreux hommes qui ont pris le même engagement.
Mais du coup, avant ce coup de gueule, qu'est-ce qui a été fait ? Vous disiez on a tout fait pour attirer les jeunes femmes. Aujourd'hui, il y en a peu. Qu'est-ce qui a été fait concrètement ?
Par exemple, on a créé les trophées Excellentia, qui consistent à sélectionner des jeunes filles et à financer leurs études dans des écoles d'ingénieurs. Par exemple, nous avons fait toute une étude sur l'égalité hommes-femmes, dans les salaires hommes-femmes, dans l'industrie du numérique. On s'est aperçu qu'il y avait malheureusement un écart. Même dans cette industrie si moderne, il y a quand même un écart. Qui est moins que d'ailleurs dans d'autres secteurs, eh bien, il y a des programmes dans nos entreprises où on rééquilibre ces salaires. Par exemple, dans mon entreprise, Groupe Open, il n'y a plus de différence entre hommes et femmes. Voilà.
Dans l'appel, vous mentionnez que vous parlez d'absence des femmes, vous parlez d'une anomalie notoire, d'une absurdité criante. Peut-être qu'on a du mal à se rendre compte quand on n'est pas dans ce milieu-là, mais à quel point c'est un domaine masculin, le numérique ?
Oui.
Oui.
Absolument.
Tatiana Salomon.
D'ailleurs... avec Natacha, il y a 10 ans, quand nous avons fait le club, nous travaillions pour un journal, un groupe de presse, et Natacha était la première femme qui a fait des papiers sur la nouvelle technologie, par exemple. Elle était une journaliste spécialisée. Elle a travaillé pour tous les journaux à l'époque parce qu'elle était la seule. Et moi, je suis présidente d'une association, je suis toujours d'ailleurs, qui s'appelle les Humains Associés, une association humanitaire, où notre préoccupation déjà en amont, c'était ça. C'est-à-dire, quand c'est arrivé Internet, c'est arrivé toutes les nouvelles technologies, nous avons dit qu'il y aura une fracture, il va y avoir une fracture numérique, et elle va être aussi nord et sud, mais elle va être aussi féminin-masculin. Donc, on avait vu ça, on a organisé des choses avec l'UNESCO en 1995, je pense déjà, dans ce sens-là. Et effectivement, c'était arrivé, c'est très masculin. Et voilà. Donc, nous avons essayé. D'ailleurs, le club, on a fondé comme ça. D'abord, c'était un peu pour rire. Mais aussi pour un peu l'humour. Parce que moi, je pense qu'il faut de l'humour dans la vie. Sans humour, ça ne passe pas. Se prendre au sérieux, c'est dangereux. Mais en même temps, d'une façon ludique, amener les femmes, les filles, à se rendre compte du problème. Nous avons formé énormément de filles là-dedans qui sont aujourd'hui dans les clubs. Et le but, c'était ça, quoi. C'était une chose, mais pas une affrontation, pas quelque chose comme ça, mais juste de voir que les hommes acceptent mieux le fait qu'il y ait des femmes et dans ce milieu qui était absolument masculin. Et ça continue d'ailleurs. Par exemple, des gens comme Guy, c'est pour ça qu'on a fondé les clubs avec lui. J'aurais jamais fait les clubs si c'était pas avec Guy. Mais on parlera plus tard, si vous voulez.
Oui, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, parce que vous parlez de vraies fractures entre hommes et femmes dans le numérique. Les discriminations, elles ressemblent à quoi, du coup? Peut-être que vous pourriez décrire un petit peu, en tant que femme qui travaille dans le numérique, qu'est-ce que vous avez eu comme discrimination, comme rejet, comme remarque, comme attitude?
En fait, on intègre soi-même les préjugés. C'est là le problème essentiel. Au-delà des compétences qui peuvent être techniques ou sur les nouveaux métiers, c'est le fait qu'en fait, on ne s'assume pas complètement et qu'on n'ose pas prendre la parole ni développer sa carrière. Donc déjà, il faut avoir un goût pour les nouvelles technologies. Et ça, les filles, en fait, dans les études scientifiques, on le voit, s'y intéressent. Mais après, il faut qu'elles aient envie d'aller vers les nouveaux métiers dans les entreprises du numérique et elles-mêmes de devenir entrepreneurs. Alors, par exemple, sur les problèmes dans l'entrepreneuriat féminin, c'est d'avoir confiance en soi, de convaincre les banquiers, plus tard si on fait une start-up, les investisseurs, ça demande beaucoup plus d'efforts quand on est une femme qu'un homme, puisqu'il y a aussi des préjugés.
Et ces préjugés-là, vous parlez de banque, donc pour financer son projet, pour trouver des partenaires,
crédibilité, c'est un peu difficile quand vous n'avez pas complètement confiance en vous et qu'en plus on vous rajoute des préjugés en vous questionnant d'une façon différente qu'on le ferait avec un homme. Et c'est vrai que les femmes, on est très exigeantes avec nous-mêmes et souvent on ose moins au culot dire qu'on va réussir un super bilan, etc. Donc ça s'apprend, ça aussi.
Vous avez quand même l'air d'avoir du culot, mine de rien.
Il en faut, hein. Vous savez, moi je suis entrepreneur aussi, donc on défend nos métiers tous les jours. Mais il faut avoir l'énergie, puis surtout il faut avoir un écosystème, un environnement, soit familial, soit amical, soit dans le cadre du travail, qui vous encourage à le faire. Et c'est pour la raison pour laquelle c'est important d'avoir des clubs féminins où on peut parler, se soutenir, se donner des conseils, puis maintenant des clubs mixtes.
Le club des gentlemen, donc c'est un club de mix, c'est bien ça. Guy Mamoumani, vous aviez conscience de toutes ces discriminations, on va dire, ou de ces manques de confiance que peuvent avoir les femmes entrepreneuses aujourd'hui?
Oui, dans le numérique, ce n'est pas une discrimination. Les femmes sont les bienvenues et au contraire, vous le voyez, on fait vraiment le maximum pour les attirer. Il y a un problème quand même. Le résultat, c'est, et d'ailleurs je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Tatiana, c'est qu'il n'y a que 91% des créateurs de start-up qui sont des hommes. C'est-à-dire que même dans la création de start-up, il n'y a pas assez de jeunes filles. Donc c'est un problème qui remonte très loin. D'ailleurs, nous faisons des actions depuis l'école primaire pour dire aux jeunes garçons et aux jeunes filles, apprenez à coder, regardez ce que c'est que le métier du numérique, il s'adresse à tout le monde. Donc il y a un travail d'éducation, de pédagogie à faire, plus dans l'enfance, mais aussi des enseignants, des parents, des conseillers d'éducation.
Donc pour vous, l'enjeu, il est là, c'est-à-dire aller dans les écoles plutôt qu'essayer d'ouvrir l'esprit aussi des personnes qui sont déjà dans le numérique, qui peuvent avoir des blocages vis-à-vis d'une femme codeuse, une femme qui développe... Voilà.
Tout est important. Il faut vraiment aller sur tous les fronts, et nous le faisons. Si vous permettez, je vais raconter une petite anecdote qu'une élève ingénieure m'a racontée. Elle a toujours rêvé de faire de l'informatique dans une école d'informatique prestigieuse. Et quand elle est allée voir son conseiller d'orientation, il lui a dit « Ah, ça c'est bien, une fille qui veut faire de l'informatique, fais un BTS d'assistante ». Vous voyez, pour lui, ça correspondait à ça. Vous voyez, toute la culture qu'il faut changer, c'est énorme. Ça commence, c'est vrai, depuis le début, mais on insiste aussi sur, à la limite, la vitrine. C'est quoi la vitrine, finalement? C'est quand vous êtes à l'Élysée. Et c'est ce que Natacha a très justement remarqué. Vous voyez une table ronde parler du numérique. Il y avait 12 hommes avec leurs costumes noirs alors que leurs chemises blanches. Pas une femme. Eh bien, tout ça est devenu inadmissible. Et on ne pourra pas faire progresser les choses si, justement, il n'y a pas une vitrine où on voit des femmes qui ont réussi. Donc, c'est très important.
Donc, la vitrine aussi est importante. Vous parlez donc, du coup, dans l'appel de panel, donc, c'est derrière la vitrine et aussi, donc, que j'imagine, des émissions de télévision, etc. Ça concerne vraiment toutes les représentations ?
Alors, le coup de gueule au début a démarré sur les tables rondes, parce que c'est vraiment ça. Mais en effet, ça concerne toutes les représentations. Il faut aller plus loin. Mais je dois vous dire que c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai déjà dû faire changer deux fois la composition d'une table ronde et j'ai dû annuler au dernier moment deux tables rondes parce qu'il y avait une seule femme qui devait venir et qu'elle a annulé sa représentation. Donc du coup, ne voulant pas me retrouver le seul homme, j'ai dû annuler deux fois ma participation. Et je vois parmi mes collègues qui ont signé l'appel, c'est pas facile de mettre ça en œuvre dans un monde où, Natacha l'a très bien dit, c'est important, il faut aussi que les femmes se prennent en charge. Il faut qu'elles-mêmes, elles aient envie de participer à ces tables rondes, qu'on les voit. C'est pour ça qu'il y a des annuaires maintenant, tout ça. C'est ça qu'il faut encourager. Et juste une dernière anecdote, à mon conseil d'administration, qui est strictement élu par les adhérents, donc il n'y a pas de quota, j'ai 8 femmes sur 30 au sein de Tech Numérique. Et la dernière élection, j'ai eu 100% des femmes qui se sont présentées et qui ont été élues. Il y a juste un problème, il y en avait une seule. Voilà, donc il y a vraiment des efforts à faire aussi de la part des femmes pour se prendre en charge.
Oui, vous le faites.
Voilà, il y a un travail
la
sur
réponse,
les nouveaux rôles modèles. C'est valable pas seulement dans le numérique, bien sûr, mais il faut avoir envie, il faut avoir des exemples et qu'on puisse s'identifier à des personnes. Ça ne veut pas dire des extraordinaires, des femmes remarquables, inaccessibles. Ça veut dire quelque chose de très concret, de voir quelqu'un qui crée sa boîte, qui devient développeuse, qui s'épanouit. Il y a l'idée aussi, je pense, dans la transformation de la société, de l'épanouissement aussi. C'est-à-dire qu'on est enthousiaste, on est passionné, c'est des domaines qui vont beaucoup évoluer, et les femmes ont pleinement leur place. Et donc, on a besoin de voir de plus en plus de femmes visibles, ce qui va inspirer, je pense, les plus jeunes.
On continue de parler de l'image de la vitrine, de comment est-ce qu'on peut mettre plus de femmes dans le numérique, on va dire ça comme ça. Après, un petit peu de musique.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
Nous sommes toujours en compagnie de Tatiana Salomon, Natacha Kester-Séméon et Guy Mamoumani pour parler des femmes dans le numérique. Vous avez tous les trois participé donc à Jamais sans elles, vous avez lancé Jamais sans elles, un appel pour plus de visibilité des femmes et de participation des femmes dans les métiers du numérique. Cet appel, il est en fait majoritairement masculin sur les 50 personnes qui l'ont signé. C'est ça la priorité aujourd'hui, c'est mobiliser, est-ce qu'on a besoin des hommes pour pouvoir prioriser cette question ? Alors qu'il y a plein de militantes qui ont...
Je vais laisser parler ces dames, parce qu'elles sont mieux placées que moi pour répondre à cette question. Mais en fait, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'un club créé par une femme, dans lequel il n'y a que des hommes, s'engage pour la promotion des femmes. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'un peu original et qui est nouveau et qui doit avoir un nouvel impact. C'est en ça que c'est original. Bien sûr qu'on pourrait avoir des centaines de femmes qui nous rejoignent, évidemment, sur cet appel. Il n'y a pas de débat.
Il y en a sûrement plein qui seraient prêtes à le faire.
Mais c'est évident. D'ailleurs, on nous le demande. Mais l'originalité de l'appel, c'est que ça soit les hommes.
Mesdames, une réaction?
Je souhaite qu'il reste, d'ailleurs. Parce que je trouve d'une élégance inouïe, folle. Je suis ravie. Mais encore une fois, je pouvais faire ça qu'avec Guy. On n'a pas de temps pour développer, mais il n'y a que Guy pour faire ça. Il y a des années que je suis dedans. Non, mais c'est vrai, il y a des années que nous sommes dedans. Notre groupe, il y a 10 ans, comme je vous dis. Il y a Benoît Thiolin, par exemple, qui est le parent de notre groupe. Il y a quelques-uns comme ça. Maintenant, il y a Gilles Babinet, qui c'est quelqu'un de très ouvert aussi, et très, très paritaire, mais qui n'avait pas j'ai jamais trouvé une écoute comme ça, un respect, une écoute, une simplicité, une égalité comme ça. Et dans ce milieu, comme avec avec Guy. Et donc, c'est pour ça que faire le club avec lui, et d'ailleurs, c'est nous deux en même temps, c'était simultané, c'est une très, très belle aventure. Et bien évidemment, comme il y a lui et qu'il y a tous les autres, et parce que bon, nous sommes quand même 25 ou 30, il y a un impact, il y a un plus grand impact. Aujourd'hui, par exemple, j'ai écrit un papier dans l'Express, en réponse à des questions, par exemple, pourquoi il n'y a que des femmes, etc. J'ai dit, mais l'appel, c'est l'appel des clubs, des gentlemen, qui pour une fois, ce n'est pas les femmes qui... Parce que,
oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on n'entend pas les femmes quand ce sont elles qui parlent et on l'entend quand il y a une vingtaine d'hommes qui parlent?
Par exemple, c'est comme ça. J'essaie de répondre. C'est comme ça. Alors, pour le moment, c'est comme ça. Alors, il faut être pragmatique. Voilà. Et pour une fois qu'on a des gentlemen qui viennent demander pour nous et qu'on n'a pas besoin d'aller commander, moi, je ne suis pas d'accord d'aller commander. Moi, je pense que c'est une chose naturelle. C'est revendiquer, commander derrière, etc. Quelque chose que c'est, ça va de soi. Et donc, ce sont eux qui font. Ah, maman, je suis ravie. Et toutes les femmes que je connais, fais-moi confiance, je connais beaucoup, elles sont très, très contentes. Alors, il y a les féministes, comme toujours, les féministes, vraiment, hein, celles qui ne m'aiment pas d'ailleurs, qui râlent. Mais je dis, mais essayez de prendre ça comme un grand compliment, comme un service chevaleresque, au lieu de se braquer dessous.
Oui, enfin, chevaleresque, comme vous le disiez juste avant, c'est quelque chose de plutôt normal aussi dans l'absolu.
Oui, mais c'est chevaleresque. J'aime bien les
comme ça. On notera les mots chevaleresque et gentleman. Voilà. Justement, je vais vous poser une question pour dans votre... comment dire, pas qu'à la médiatisation, mais pour avoir de l'impact. Vous avez beaucoup de signataires de l'appel qui sont justement des hommes de médias. J'avais par exemple sous les yeux Lapierre Aski, cofondateur de Rue 89, Claude Pensonnac, fondateur de L'Important. Voilà, enfin, c'est quelque chose qui est important pour vous, justement. C'est un tremplin ou c'est...
Non, ils sont dans les clubs des gentlemen. C'est ça. Les clubs gentlemen, c'est un club que nous avons fondé avec lui et qui a à peu près 30 hommes, voilà, qui font partie du club gentleman, et je suis la présidente avec Guy. Voilà, c'est un club. Voilà. C'est sept clubs de gentleman qui ont lancé l'appel. Donc, ensuite, il y a d'autres qui nous sont... tous ceux que vous parlez, que vous citez là, ils font partie du club déjà. C'est un...
D'accord, mais voilà, vous tournez ma question sur l'importance des médias pour arriver à faire prendre de l'ampleur en fait votre cause, parce qu'au final c'est aussi dans les médias qu'il y a une absence de femmes. C'est quelque chose de capital pour vous aujourd'hui, là, au début de l'aventure?
Je pense que dans le levier, moi je crois beaucoup plus à l'impact des réseaux sociaux en fait. Et généralement les médias sont suivistes maintenant, et quand il y a un phénomène qui vient des réseaux sociaux, ils en parlent dans les médias. On ne cherche pas forcément de la communication, on cherche que ce soit pragmatique. Encore une fois, ce n'est pas un appel médiatique, c'est un appel tout à fait pragmatique. Comme l'a dit Guy tout à l'heure, ils l'appliquent eux-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir, c'est que d'ailleurs, un, et les femmes l'ont très bien reçu, et deux, aussi il y a une attention qui est portée au programme de conférence, et parfois même d'intervenants ou de personnes qui assistent à une conférence qui vont se poser la question, est-ce qu'il y a assez de femmes? Donc le fait qu'il y ait un réel débat, que ce soit réellement appliqué, c'est ça qui est essentiel. Et si ça peut avoir un impact et une prise de conscience aussi chez des dirigeants de médias, c'est une excellente chose. Mais certains ont déjà cet éveil, sinon on n'aurait pas rejoint cet appel.
Forcément. excusez-moi, je pensais à quelque chose d'autre, mais vous parlez justement de votre réseau professionnel de femmes. Je pense faire le lien avec les réseaux sociaux, mettre en relation les professionnels du domaine. Vous pourriez nous décrire un petit peu plus à quoi ça ressemble en fait un réseau professionnel de femmes? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce que ça apporte?
Oui, alors dans Girl Power, nous on est le premier club sur cette thématique-là, donc il y a une dizaine d'années. Alors il y a beaucoup de choses. D'abord, il y a le travail qu'on fait entre nous, c'est-à-dire aux membres du club de se soutenir, de s'entraider, de s'aider sur... voilà, d'ouvrir des portes dans notre réseau. Ensuite, on prend la parole dans des événements auxquels on participe, justement pour promouvoir les activités des unes et des autres. Et le fait qu'on promeut nos activités professionnelles promeut des nouveaux rôles modèles. Mais je dis ça sans... je veux dire, c'est en toute humilité. Hein. On est très nombreuses dans notre écosystème, mais il faut que les unes et les autres, on intervienne davantage.
Vous êtes combien, par exemple, dans votre club?
Alors, notre club, il a eu plusieurs phases. Alors, nos réunions sont volontairement restreintes à un certain nombre de dirigeantes et de leaders d'opinion. Mais sinon, sur les réseaux, on peut avoir une audience. Je vous donne un exemple. Le hashtag « Jamais sans elle », d'après nos estimations, touche à peu près 3 millions de personnes sur Twitter. Donc l'idée, c'est de diffuser les idées et que chacun se l'approprie. Donc il n'y a pas de propriétaire d'une idée, c'est qu'un mouvement culturel, un mouvement de pensée se diffuse dans la société. Et ça, chacun peut y participer.
Et par exemple, dans les 10 ans d'existence du club, c'est bien ça. Vous avez fait quoi, par exemple, comme rencontre, comme pour essayer de donner une idée en fait aux femmes qui sont entrepreneuses, que peuvent leur apporter un club pareil pour rentrer en fait dans un milieu professionnel.
Alors le club sert à avoir des bons conseils, à ouvrir des portes. Il y en a de sous formes différentes. Alors en 10 ans, ça a beaucoup évolué. C'est pour ça qu'il y a un mouvement de fond. Il y a des clubs féminins qui se créent dans des très grandes entreprises, pas seulement sur le thème du numérique. Et maintenant, je dirais que ce qui est différent, c'est le moment où on réussit à faire avec de la mixité. C'est-à-dire qu'en même temps, les hommes défendent des sujets féminins, que ce ne soient pas nécessairement des femmes qui revendiquent. C'est ça qui est fondamentalement nouveau. Et on l'a vu d'ailleurs avec le festival Angoulême, avec les dessinateurs qui ont aussi soutenu des femmes. C'est là où on réussit en fait à avoir une action réelle. Donc les clubs permettent de faire de la solidarité, puis surtout d'avoir des bons conseils, etc. Et pour les étudiants et les étudiantes, je pense que c'est aussi important qu'il y ait des clubs de femmes qui ont un goût pour les nouvelles technologies au sein des écoles.
Le mot est passé. Peut-être pour conclure cette interview, c'est quoi l'étape suivante, par exemple ? Qu'est-ce qui vient après cet appel, après que d'autres personnes viennent y participent ?
Franchement, on n'a aucune stratégie tactique par rapport à ça.
Sans parler de tactique,
voilà. Donc,
juste une perspective.
L'étape suivante, c'est de faire progresser ce combat, qui est un combat, comme il a été dit, tellement de bon sens et d'évidence, hein, et de continuer à travailler sur tous les éléments hein, qu'il constitue, on l'a dit, les jeunes, les développeurs, la communauté des chefs d'entreprise, enfin la communauté des start-up, les ministres, parce qu'on voit aussi qu'il y a des choses sur lesquelles il faut progresser avec certains ministères. Enfin bref, donc pour nous, au fur et à mesure, eh ben, on prendra un certain nombre d'initiatives pour essayer de promouvoir ces idées-là. Et tant mieux si ça se diffuse le plus vite possible et que nous ayons des résultats concrets le plus rapidement possible.
On parlait de réseaux sociaux. Est-ce que vous allez tweeter, par exemple, à chaque fois qu'il y aura une table ronde qui ne sera pas représentative ? Voilà. C'est
C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Voilà. Et puis quand un de nos signataires se retrouve malheureusement par erreur dans une table ronde comme ça, il a tout de suite des gens qui lui rappellent son engagement. Et puis moi, chaque fois que j'annule ou que j'ai fait changer une table ronde, eh ben je l'annonce sur les réseaux sociaux de façon à montrer que c'est possible. Et c'est vraiment incroyable de voir comment l'impact de ce que vient de raconter Natacha, là, est en train de faire une sorte de boule de neige et au bout du compte, une prise de conscience générale.
Eh bien, on suivra les tweets et cette boule de neige pour voir jusqu'où va le mouvement. Et on en reparlera sûrement dans quelques années encore. Merci à vous trois d'être venus. Donc, je rappelle. Oui, dites-moi. Dites-nous.
Il y a d'autres clubs de femmes, d'autres associations qui travaillent là-dedans. Il n'y a pas que nous. Nous étions les premières, c'est tout. Mais très vite, il y a d'autres qui sont arrivés et qui font un très, très bon travail. D'ailleurs, un de ces jours, je pense qu'on va les inviter tous à venir échanger avec les gentlemen, par exemple, pour voir ce qu'on peut faire ensemble. D'accord.
Eh bien, écoutez, on suivra l'actualité des clubs de femmes dans le numérique. Et je vous remercie donc tous les trois d'être venus. Donc, je rappelle, nous étions en compagnie de Guy Mamoumani, Natacha Kester-Séméon et Tatiana Salomon. Merci à tous les trois.